Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous. Et notre invité, c'est un comédien qui a commencé sa carrière d'abord au théâtre, sur les planches, avant de devenir un visage familier, populaire des téléspectateurs. Il a brillé dans des classiques, il y a aussi Roméo et Juliette ou L'Avare, mais aussi des rôles plus secondaires, entre guillemets, dans des séries bien installées, Joséphine Ange Gardien ou Camping Paradis, pour ne citer qu'elle. Depuis 2010, il devient des visages familiers, surtout de Engrenage sur Canal+, une série à succès, puis devient la star, d'une certaine manière, de 15 sur France 2. Mais s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, il reprend le rôle principal d'une série où un flic justicier entreprend un voyage initiatique à la recherche de tueurs que la justice a laissé filer. Bruno Debran, bonjour.
Bonjour à vous, merci bonjour de m'inviter.
Bienvenue dans le Buzz Télé. On parle d'une collection que reprend France 3, c'est en prime time ce soir, ça s'appelle Le Voyageur, en première partie de soirée. La nouveauté de ce cinquième épisode, parce qu'il n'y a eu que cinq épisodes à date, c'est que vous êtes endossé le costume de héros, pardon, et vous succédez à Eric Cantona, pour ceux qui ont suivi les quatre premiers épisodes. L'idée, c'est quoi? C'est de passer le relais, quand on vous passe le relais, comme on dit, Cantona... aujourd'hui ?
Ouais, Canto, le King.
Le King, vous dites, oui.
Ah oui, bien sûr. Mais moi, je viens du monde des sciences et du sport, donc avant de faire le clown. Donc, mais j'étais spectateur de Canto.
Vous étiez un fan.
Quelques amis communs, oui. Ouais. Et pour moi, c'était absolument nécessaire d'avoir la bénédiction de Canto avant d'accepter cette proposition. Donc, ce que j'ai fait, on a échangé tous les deux et voilà. En plus de la bénédiction, il m'a donné une responsabilité, celle d'honorer son grand-oncle qui a inspiré cette histoire.
Et comment s'inscrire dans les pas de Canto, justement, de Cantona ?
C'est impossible.
C'est impossible ?
Non, on ne peut pas. On peut pas. Non, ce qui est intéressant dans ce concept, c'est justement, c'est que c'est le voyageur. Le voyageur, c'est une parabole, c'est un symbole, c'est une quête. N'importe qui peut s'identifier. C'est ça qui est intéressant, c'est que le spectateur va pouvoir s'identifier au voyageur. N'importe qui peut prendre la route, et d'ailleurs c'est ce qui m'a intéressé dans ce concept, c'est que tout d'un coup sur le service public, on avait une proposition, un divertissement policier, mais qui est à la fois un objet sociétal sur lequel on va pouvoir débattre des questions qui nous ont tous traversées pendant le confinement. Qui n'a pas voulu un nouveau monde après le confinement? Qui n'a pas voulu se réinterroger sur le sens de sa vie, le sens de son boulot? Pourquoi je gagne du pognon, à quoi ça va servir, est-ce que j'ai assez de temps pour vivre avec mes enfants, avec mes amis, mes voisins, c'est quoi ces métiers essentiels? C'est ça le voyageur. Et le voyageur peut être incarné par n'importe qui, puisque c'est quoi? C'est se mettre en mouvement, décider de se débarrasser de tout et de se réinterroger sur sa vie. Surtout que lui, c'est un flic qui avait une mission, et comme tous les gens qui embrassent comme ça des métiers sacerdotaux, tu sois journaliste, instituteur, avocat, flic, médecin, infirmier, paysagiste. Quand on est gamin, on veut être pompier, vétérinaire. On veut faire un métier parce que tout d'un coup, on en voit le sens. Et puis, 30 ans plus tard, tu te réveilles et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert? On croule sous la paperasse, l'administration, une querelle de chef. On ne sait plus pourquoi on fait ce métier. On sait plus. On perd le sens. C'est ça, le voyageur.
Matière à réflexion. Fait,
il n'est pas question de suite, il était question pour moi de réinventer le personnage et puis de réinventer, moi je n'ai pas du tout la même carrure, la même force qu'un Canto, c'est une bestiole. Donc il fallait que, ce qui nous amusait c'était de se dire, le premier numéro, la première proposition du voyageur, Canto, quand il débarque, en fait il a déjà 6 ans de route, c'est presque un ermite, il est barbu. Et donc d'ailleurs le premier épisode, on se demande qui est le prédateur, de celui qu'il chasse ou de celui qui... Donc il était très beau ce premier épisode. Là on a voulu changer de braquant, on s'est dit tiens, un super urbain comme nous tous, on se dit tiens voilà, j'en ai ras le bol, je vends tout, je vais vivre à la campagne. Sauf que quand tu poses tes fesses dans l'herbe par -10, t'attrapes la crève, que tu sais pas forcément faire du feu, que tu sais pas forcément attraper du poisson si t'as faim. Donc c'est ça qui nous amusait, c'était de très bien la quête, le type va chercher du sens, donc il y a un voyage personnel, il est quand même totalement investi de sa mission, donc il ne peut pas s'en empêcher, mais il va apprendre à vivre à nouveau, donc il va porter sa gravité, il va porter ses questions personnelles, tout en s'ouvrant aux autres. Il ne décide pas de fuir dans un désert le genre humain, comme dirait Molière, parce qu'il l'avait évoqué tout à l'heure. Non, parce qu'il pourrait partir en Auvergne, élever des chèvres. Non, il continue sa mission, mais il change de programme. Et c'est là que ça pose des questions, des vraies questions. On parlait l'autre jour de donner la mission de police à nos chasseurs dans les milieux ruraux. Voilà, ça pose la question, est-ce qu'un flic ou un instituteur qui prend disponibilité de l'administration, il a toujours le droit d'avoir un flingue? Est-ce que, voilà, suicidez-vous police, on était tellement dans la grogne, on en a marre de la police, sauf que quand on a un problème, on est bien content qu'il soit là. Ouais. Voilà, ces vrais débats sociétaux sont dans ce projet. On va pouvoir se poser la question, mais est-ce qu'il a le droit d'être Charles Bronson dans nos campagnes, ce voyageur? Donc, vous voyez, ça pose des vraies questions. Ce format le permet, on peut.
On va poursuivre cette discussion, nous sommes en direct avec Bruno Debran sur Figaro Live, je rappelle, diffusé sur le figaro.fr, également la page YouTube de TV Magazine. Quel regard portez-vous sur cette collection, qui est quand même aussi une fiction? Est-ce que vous avez hâte de découvrir l'épisode de ce soir avec Bruno Debran? En attendant, dites-nous tout, nous allons retrouver surtout Damien Canivez pour les news médias du jour. Ah. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors Bruno, tradition oblige, on démarre les news médias du jour par les audiences télé de la veille.
Oui, c'est TF1, voilà, qui arrive en tête des audiences avec un nouvel épisode de Camping Paradis. Alors, pour une fois, la bande de Laurent Ronac chaussait les skis, ce qui n'a pas refroidi le public. Les skis refroidis, vous avez compris. 4,3 millions de fidèles, 21% du public. France 2 enfile la médaille d'argent grâce à un épisode en rediffusion de L'Art du Crime avec Nicolas Gop. 3,5 millions de téléspectateurs, 16,2% du public.
Merveilleux héros de L'Art du Crime.
Excellent. Et ça cartonne, hein. Un épisode en rediffusion, 3,5 millions de téléspectateurs. Il faut le répéter deux fois pour y croire.
Garanti.
Exactement. M6 résiste bien face à la concurrence, hein, grâce à son prime événementiel de scènes de ménage, fiction humoristique. La chaîne est même première d'ailleurs de la cible très convoitée, vous le savez, de la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Et enfin, on termine avec France 3, qui échoue au pied du podium avec néanmoins un score très honorable. C'était Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, que vous connaissez bien, on en parlera dans quelques instants. 1,4 million de curieux pour cet épisode consacré à Gustave Flaubert, 6,4% de part d'audience.
Et les fictions humoristiques à la télé sont plutôt rares, pourtant c'est des vrais succès, on le voit quand il y a en effet scène de ménage. Vous pourriez vous-même endosser un rôle un peu plus drôle, entre guillemets, peut-être moins dans les drames, comme on l'a pu le voir récemment?
Ah oui, mais j'ai commencé par ça. Moi, j'ai fait beaucoup de clowns et de comédies dell'arte. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, dans les films historiques qu'on faisait, j'ai plutôt embrassé la figure comique, puisque je faisais le marquis dans le cartouche. Donc,
c'est ma formation. Finalement, c'est l'histoire, le hasard de la carrière.
C'est le hasard du parcours. C'est aussi, après, on inspire aussi. Voilà, c'est un petit peu le malentendu permanent qu'il y a entre les acteurs. Hein, c'est qu'on inspire quelque chose, on est un peu soumis au désir et à la projection de ce qu'on projette sur notre physique, notre gueule, etc. Mais quand même, parmi les films que j'ai fait, un meurtre, par exemple. Le meurtre que j'ai choisi, c'était justement un personnage qui était très border, très comique, presque décérébré, un peu porté sur l'alcool, qui voulait chanter de la samba. Il apprenait le portugais pour faire un voyage aux îles. Donc, j'adore ça, moi, la comédie. Mais c'est compliqué, la comédie, parce que tout le monde en réclame. Les producteurs, les chaînes en veulent en permanence. Mais c'est un exercice super difficile. C'est forcément clivant, la comédie. C'est beaucoup plus clivant qu'un drame et qu'une histoire. Donc, il faut une synergie entre d'excellents auteurs, d'excellents acteurs, le bon moment, la bonne audience. C'est compliqué à produire la comédie.
On poursuit ces infos médias avec une nouvelle polémique et un nouveau rebondissement dans Koh-Lanta. Soir d'ailleurs, je le rappelle.
Ah oui, vous allez voir là, ça. Je pense que la face du monde sera complètement changée après cette information. Vous allez voir, TF1, vous le savez, diffuse actuellement la saison All-Star de Koh-Lanta, toujours animée par Denis Brognard. Et à seulement une semaine de la grande finale, tenez-vous bien, le Parisien révèle ce matin que 4 ou 5 aventuriers seraient impliqués dans une affaire de tricherie en bande organisée lors du tournage qui s'est déroulé en Polynésie française. Alors selon le quotidien, ces candidats en question auraient rejoint un village de vacances une fois les gardiens endormis et auraient bénéficié tous les 3 jours d'un repas complet avec des boissons énergisantes, etc. Vous allez voir, scandaleux. 7 mois après les faits, il y a forcément une enquête interne qui a été déclenchée au sein de ALP, hein, vous savez, la société de production qui signe Koh-Lanta. Et pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de triche. Lors de cette saison de Koh-Lanta, il y a quelques semaines de ça, Théoura, l'un des aventuriers emblématiques de cette émission, a été disqualifié car il a, vous savez quoi, bah lui, il a carrément mangé un steak frites, il a mangé des légumes qui lui ont été apportés par des pêcheurs qui passaient au large de l'île sur laquelle il se trouvait. Enfin bref, c'est
tout fout le camp.
Ouais, tout fout le camp.
Mais c'est pour ça qu'il faut le regarder en replay.
Bah, exactement.
Vous suivez ce genre d'aventure,
Paul-André ? Oui, bien ouais. sûr, je le ouais. suis. Bah, je le suis quand je suis en voyage, quand je suis à l'hôtel, tard, en rediffusion. Non, je ne suis pas client, mais c'est un.
Et vous auriez pu faire participer bon à un jeu de ce type ou pas ? Est-ce que vous avez l'âme de l'aventure, justement ?
Ah, mais carrément. Ouais. Moi, jeune...
Guerrier.
Moi, j'ai fait un sport études et je voulais être aventurier. Donc, typiquement, si j'avais eu 20 ans à l'époque de Koh-Lanta, j'aurais, ouais, j'aurais eu envie, je pense.
Courir.
Ouais. J'aurais pu postuler. Ouais.
Mais vous avez déjà triché, vous aussi ?
En tant que professionnel, jamais. Le voyageur ne triche pas, lui. Lui, justement, lui aussi, il va chasser du lapin.
Mais je ne vous parle pas du voyageur, moi, je vous parle de vous, Bruno Demande. Est-ce que vous êtes un tricheur dans l'âme ?
Vous savez, je suis produit par une femme extraordinaire. Le voyageur est produit par une extraordinaire productrice qui s'appelle Lisa Pilu, dont le parent était un acteur extraordinaire, François Perrier, qui a écrit Profession menteur.
Ah.
Pour parler de notre métier. Ouais. Donc, est-ce que je triche ? Est-ce que je mens ?
C'est votre métier ?
C'est mon métier.
On va le découvrir tout de suite. Merci Damien pour ces news médias. Et on passe tout de suite à l'interview de Bruno Debrandt. On va tout savoir. Voyageurs, ça se poursuit ce soir sur France 3 en première partie de soirée. Un polar dans lequel vous en laissez le rôle du capitaine Kandinsky. C'est pas un peintre, mais c'est quand même une grande référence.
Non, mais il a des couleurs.
Il a des couleurs, la brigade criminelle. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 4 premiers épisodes, c'est quoi l'histoire, si on essaie de la résumer ? Vous parliez un peu des débats sociétaux que ça pouvait engranger. C'est quoi l'idée au départ du voyageur ?
Alors, l'idée au départ, c'est le porteur d'histoire, c'est Hervé Corian, un magnifique auteur, en plus d'être un très bon scénariste. C'est un auteur qui voulait s'interroger voilà, pour répondre à la case, voilà, à la demande du service public et des autres chaînes de créer des formats policiers et de s'interroger sur les cold cases, donc sur les affaires non résolues. C'est ça d'abord le cahier des charges. Et après, derrière, il y a un auteur qui réfléchit sur le monde. Et c'est ça qui fait la qualité de ce programme. C'est que c'est une errance. Et tout d'un coup, c'est un type qui... Donc, le principe du voyageur, c'est un type qui... C'est un peu Kung Fu 3.0. C'est un type qui prend une disponibilité du monde dans lequel il vivait.
Donc, Brigade criminelle.
Alors, il y a une distinction entre le Bareski qui était incarné par Cantona et celui qu'on a créé, nous. Bareski de Cantona, le premier personnage qui était le voyageur... Quand on le rencontre, en fait, il a déjà 6 ans de route. Donc, on va découvrir petit à petit, au long des 4 épisodes, d'où il vient, qui il est. Mais il y a un vrai mystère, parce que Canto porte ça.
Ce qui n'est pas le cas de votre personnage.
Non. Quand on a réinventé la série, puisqu'il a été question de la poursuivre, surtout après ce qu'on avait vécu, le confinement, tout d'un coup, le projet pouvait être poursuivi en étant réinterrogé, réinventé. Et donc là, on s'est dit, voilà... Tout le monde a vécu, on a tous vécu la même chose et on a tous eu ce désir d'un nouveau monde, d'un autre monde, de se réinterroger sur nos valeurs. Pourquoi je fais mon métier ? Quel sens ça ? Mais j'ai déjà dit ça ou pas ?
Vous l'avez dit au début, mais c'est assez intéressant. Il y a des gens qui viennent là, qui se connectent, donc ils l'écoutent pour
ça,
la première
fois. C'est ça, c'est se réinterroger sur sa vie. Et ce ouais. flic, Kandinsky, c'est ça. Il perd le sens dans son travail. C'est un super flic, hein, il a des super... c'est un très très bon enquêteur, il a un très joli parcours, mais il arrive à un moment de sa vie où tout d'un coup, il se demande à quoi ça sert. Il y a une très jolie scène où ils sont en train de surveiller une espèce de voyou qui veut braquer une automate. Ouais. Quoi. Ouais. Et ce n'est pas ça son métier. Lui, il s'en fout, ça c'est police secours, c'est pas la criminelle. Sans être péjoratif vis-à-vis. Ouais. Mais ce n'est pas son métier. Lui, il avait envie d'enquêter, de réfléchir sur des gros... Voilà, de sortir les vrais méchants de la ville. Enfin, et donc, il en a marre, il est en pleine remise en question. Donc, il prend une disponibilité de la police criminelle et il décide... Il a entendu parler de l'autre qui a disparu et donc il décide de tout vendre, maison, voiture. Il a même des problèmes avec sa femme, donc de toute façon, puisqu'elle a décidé de se marier avec un autre, ben il va prendre la route. Donc il est dans un arrachement, dans un dépouillement. Il va essayer de retourner à l'essentiel, un mot qu'on a tous même galvaudé. Et il va essayer de retrouver le sens de sa vie tout en continuant son métier qui est de poursuivre les vrais méchants et de réparer ce qu'il n'avait pas le temps de faire quand il était flic, parce qu'il avait un statut, un jargon, un langage, un rapport avec les autres. Là, il est libre. Il est libre, il peut prendre le temps, le temps de faire vraiment son métier, le temps de vivre, et donc le temps d'aller à la rencontre des victimes collatérales, comme on dit. Donc de réparer les choses, de donner des vraies réponses, de peut-être juste être dans l'empathie, faire un voyage. Et avec ça, en faisant ça, ce faisant, eh ben, il va répondre aux vraies questions. C'est là que ça pose des vraies questions sociétales. Comment retrouve-t-on le temps de faire vraiment les choses avec du sens pour retrouver vraiment le sens des choses ?
Damien, première réaction ou question des internautes qui nous suivent.
Effectivement, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. On a une première question de Thomas qui, cette fois-ci, nous vient de Twitter. Il aimerait savoir si vous avez déjà été tenté de tout plaquer, un petit peu comme le héros que vous endossez dans la fiction.
Évidemment.
Ah bon ?
Évidemment, sans arrêt.
Mais pour quelle raison ? Vous avez eu un déclic particulier ? Vous avez dit, non, bah, allez, on change de vie, je pars sur la route.
Non, c'est mon parcours de vie qui fait que, de toute façon, moi, je suis un apatride. Je ne suis pas attaché à une région. Ouais. Donc, je me sens bien partout. Et j'ai pas de racines vraiment. J'ai une identité qui est très fort liée à la France et à la Belgique. Ouais. Mais je suis de nulle part et de partout. Donc j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup bougé. Et le métier que je fais,
moi, souvent sur les routes donc.
Mais oui, forcément. Donc ça m'intéresse. Donc je suis moins contraint. Je suis pas sédentaire. Donc je suis pas comme à dire il faut que je quitte tout puisque j'en ai l'occasion. Ouais. Régulièrement, je change de crèmerie. Donc
Et de personnage. Kandinsky, c'est un marginal, il voyage seul dans son van avec son chien. Il n'a pas beaucoup de conversations quand même, pas très débordant. Il fait un peu figure d'ours mal léché, on pourrait dire. Vous partagez des points communs, non pas sur l'ours mal léché évidemment, des points communs avec lui, avec votre personnage.
Alors, le portrait que vous dessinez, c'était celui de Canto. Ouais. Qui était beaucoup plus mystérieux.
Plus rude.
Plus rude, plus rustre,
âpre, peut-être,
plus
même.
Rustre, voilà. Il en a la figure. Le Kandinsky, là, ce voyageur, il porte aussi sa gravité, il porte son mystère, il porte ses silences parce qu'il est aussi comme voilà, il porte une part de souffrance. Mais c'est un type qui veut aller vers les autres. Donc il a ce paradoxe. Il porte donc il peut être bougon, il peut être fâché, il porte une vraie violence en lui, ça c'est certain, parce qu'il a une expérience d'homme et de flic. Les méchants après lesquels il court sont violents, donc il y a forcément une métamorphose permanente. Mais son envie en fait, c'est d'aller vers les autres. Donc il crée davantage de liens. En tout cas, voilà, c'est son objectif, c'est de réparer les liens, de réparer. Les vivants, c'est une expression qui est à la mode maintenant, mais elle a du sens, elle est légitime aujourd'hui, on en a besoin. Donc oui, c'est un ours, mais voilà, qui souhaite.
Il est quoi, politiquement incorrect. On peut dire politiquement incorrect ou pas ?
Ça, c'est certain. Oh, ouais. Et je crois que ça fait partie de l'ADN du projet. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est quand même un justicier dans la ville ou dans les campagnes. C'est-à-dire qu'il pose tout un tas de questions, cet homme-là. Son chemin, c'est pour ça que normalement, ça devrait faire écho à tous nos spectateurs, parce que c'est une question prégnante aujourd'hui. Cette question du politiquement incorrect, c'est quoi le politiquement correct ?
C'est rouler dans un van qui pollue, manger gras comme vous dans la série, c'est
exactement.
Ça, vous êtes comme
par
ça.
Exemple, mais oui, non, mais c'est ça. C'est à la fois, il est dans la frugalité, dans le dépouillement, etc., mais à la fois, il pose la question de la chasse, il faut bien qu'il mange. Donc il va chasser. Voilà, il ne va pas bouffer que des pâquerettes, il va bouffer du lapin. Et effectivement, il faut qu'il se déplace. Alors, à mon avis, sa charge carbone ou son empreinte carbone, ouais. Elle est moindre que d'acheter une maison, de la chauffer, etc. Parce qu'il a un petit van, il doit mettre, voilà, il fait des petits boulots pour mettre juste ce qu'il faut de diesel. Il est au diesel avec un van comme ça, pour aller là où il doit aller. Mais après, il pose son camion et il fait, alors il coupe du bois pour le mettre dans son poêle, mais à mon avis, il a une empreinte carbone limitée. Mais son métier, flic, c'est-à-dire qu'il est en disponibilité, il porte une arme et il fait quand même la justice sans trop de demander de compte à qui que ce soit. Donc, non, ce type est un débat. Ce projet est un débat. C'est pour ça que c'est intéressant que ce soit sur le service public. Il pose des vraies questions.
Damien, une réaction encore.
Allez, une question d'Alban qui aimerait savoir si, comme votre personnage, vous pensez que parfois la justice française est laxiste. C'est vrai que c'est aussi tout le débat de
c'est des affaires non élucidées.
Ouais.
Alors, Je vais pas répondre sur le laxisme. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier de flic, donc je peux vous garantir que j'en ai croisé beaucoup, à tous les postes, y compris des magistrats, y compris à des hauts postes de responsabilité. Ça m'intéresse. Le flic est en souffrance aujourd'hui. Flic, le justicier, la justice. Je crois qu'il faut partir du principe que la plupart d'entre ces gens qui embrassent ces métiers le font pour des bonnes raisons. Mmh. Le problème, c'est notre société moderne, c'est-à-dire c'est l'administration,
l'engorgement des tribunaux, quand même.
C'est l'engorgement, c'est le nombre, c'est les priorités, l'actualité qui va tellement vite que la pression sociale aussi fait des débats sur les priorités d'affaires plutôt que d'autres. Donc voilà, il faut réussir à faire bien son métier. C'est encore pour ça que ce projet est intéressant. C'est une vraie fiction divertissement qui porte une question sociétale très large. Et donc je ne pense pas qu'elle soit laxiste. Je pense qu'elle est débordée, qu'elle n'a pas toujours les bons outils comme l'éducation, et que c'est une bataille et qu'il faut des gens extrêmement vifs, engagés avec beaucoup d'énergie pour faire son métier correctement. Et il y en a.
J'imagine que vous aviez regardé les 4 premiers épisodes avant le 5e qu'on va découvrir ce soir. La principale difficulté de ce rôle, ce serait quoi, si vous deviez résumer ?
Il faut être en forme.
Il faut qu'on... Ça, c'est par rapport à la scène de nu que vous avez quand vous allez vous baigner dans le lac. Ça.
Ah non, ça, c'est un bonheur. Regardez les Nordiques. Quand on se baigne dans le froid, on est revigorant. Voilà. Non, c'est pas ça. Il faut courir aussi vite que le chien. il faut être rapide. C'est vrai. C'est tourner comme ça, c'est 20 jours de tournage. C'est très intense, c'est très physique. Donc il faut être en pleine forme, c'est du sport de haut niveau, c'est des personnages qui demandent beaucoup de concentration et à la fois de détente, donc quasiment une préparation athlétique.
1er juin dernier, c'est le dernier épisode du Voyageur, il avait rassemblé 6 millions de téléspectateurs, un vrai carton, 26,5% de part d'audience, si on donne les chiffres avec le langage de ce métier, c'est considérable à la télé, c'est une grosse pression pour vous ou pas?
Non, mais je ne le prends pas du tout comme ça. Cette période-là aussi, c'était la période du confinement, donc la télé a vécu, a mangé son pain blanc, parce qu'il y a eu des hausses d'audience incroyables, donc là il y a un tassement. Là, maintenant, les gens ont repris un peu des habitudes.
Il y a des normes.
Dans tout le paysage, il y a un petit tassement d'audience. Donc voilà, ça, c'est pour me rassurer.
Non, ce qui est vrai.
Non, mais c'est la vérité. Mais c'est simplement que, d'abord, moi, je ne suis pas tellement attaché à la part de marché. Ce n'est pas mon métier.
Ça montre que c'est populaire.
Bien sûr. Si on arrivait à remplir le cahier des charges, c'est-à-dire avoir l'audience prévue, c'est parfait. S'il y a plus de curieux et si ça veut dire que les gens ont compris le principe. Moi, j'y crois. Je crois à ce projet parce que ce n'est pas seulement un divertissement, comme je le disais. C'est comme un débat, une réflexion qu'on apporte au salon. C'est-à-dire qu'on continue la réflexion qu'on a tous eue pendant le confinement en famille. Donc, c'est un voyage. Ce projet permet d'abord de visiter la France. Ça fait partie de ces jolis projets où à chaque fois, on est dans des régions différentes. Il convie à chaque fois des personnages et donc des acteurs et des gueules à chaque fois différents. Il y a une vraie liberté d'écriture parce que c'est 1h30. Donc, on n'est pas obligé de servir tous les personnages avec leurs petites histoires personnelles. On invente à chaque fois une histoire. On prend le temps de parler aussi du temps, de la frugalité, de créer des petits liens. Il y a plein de petites scènes hors champ, j'allais dire hors la dramaturgie, qui permettent de vivre. Donc, moi, je pense que c'est un programme... Autrement, je n'y aurais pas été, C'est un programme idéal pour être sur le service public tout en étant extrêmement musclé. C'est un vrai film d'action à chaque fois et de voyage. Donc, j'y crois.
Damien.
On va prendre un commentaire de Leslie qui se réjouit à l'idée de savoir qu'elle vous verra nu ce soir dans Le Voyageur. Effectivement, alors on va recontextualiser
dans un
la
lac.
Chose. Vous serez dans un lac.
Et de dos.
Vous cherchez une source d'eau pour vous laver et vous trouvez un lac pour vous laver. On vous voit de dos. Comment vous avez vécu cette scène d'ailleurs? C'est facile à tourner pour un acteur lorsqu'on vous demande de doter...
Non. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de pudique. C'est jamais facile, les scènes comme ça où on se dévoile. Mais là, en l'occurrence, c'était extrêmement facile pour moi parce que c'est le projet. Le type est dans un dépouillement. Il cherche l'humilité, il cherche à se débarrasser de tout pour retrouver l'essentiel. Donc, si tout d'un coup, je faisais appel à une doublure, ça fait sens. Pour moi. Je fais partie de ces acteurs qui pensent que, sans être dans la méthode, etc., mais qui... Je crois qu'on doit traverser une part de ce que
vit notre personnage pour pouvoir l'incarner le plus justement possible, sans être dans voilà, l'incarnation. Il y a une distanciation, évidemment, et ça fait partie des expériences. Pour moi, voilà, si je traversais un peu la question de Kandinsky, ben voilà, j'avais plus aucun problème, je me suis désapé, j'ai été me laver, et ça m'a fait énormément de bien d'être dans la flotte, et puis en plus on est entouré de camarades, donc... Et puis plus on vieillit, moins on se pose des questions sur son appareil, je veux dire.
Vous verrez.
Pour l'instant, j'en suis pas là. Je me pose beaucoup de questions.
Ça fait plus partie du débat. Soit on a été rassuré, soit on est dans le désenchantement total. Donc...
Vous êtes dans quelle catégorie, vous ? Rassuré ou dans le désenchantement ? Dites-nous.
Je suis très rassuré.
Vous êtes très rassuré, c'est bon.
Cinquième épisode ce soir, c'est quoi la suite déjà ? Vous savez déjà un peu avec la suite du Voyageur ?
Alors, on a déjà fait un deuxième film. Là, celui-ci était en hiver, en Ardennes française. Ouais. Et le
c'est déjà suivant,
on l'a fait dans le Pays Basque, dans les Landes, Pays Basque, en été, en juin. Et donc, ça va être plus solaire, plus lumineux, comme parce que là, on a un climat très polar. Et c'est tant mieux. L'autre est en été. Et donc, voilà. Par contre, il est très âpre. Donc, c'est le prochain. Et on a deux qui seront probablement en Bourgogne et en Normandie qui sont à suivre.
Donc, l'idée, c'est quand même de regarder un ou deux par an, mais pas plus, finalement. C'est de gérer un peu la rareté du voyageur.
Oui, parce que, alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les chaînes, les producteurs, les distributeurs sont sans arrêt, quasiment à flux tendu, en train de se réinterroger sur les formats, la programmation et leur distribution, donc la fabrication des objets. On est de plus en plus là vers le bouclé et vers les collections, 2x52, 3x5, 2x90, 6x52, etc., pour pouvoir être réactif et puis jouer avec le désir du public et les programmateurs. Et puis, ça peut se réinventer. C'est-à-dire que l'année prochaine, on peut très bien en avoir besoin de 4. Pour l'instant, il est décidé d'en faire 2 par an. Ça permet une grande liberté d'écriture aussi. Alors là, on a un auteur qui est Lucky Luke, donc qui écrit aussi vite que son nom. Mais c'est difficile d'écrire bien. Donc finalement, c'est pas mal. D'en avoir 2 par an, ça permet de vraiment peaufiner les scénarios. Ouais.
Damien, une dernière question.
Oui, Amandine sur Twitter aurait aimé savoir dans quelle autre fiction vous allez apparaître au cours de la saison. Alors, on allait vous en parler. Il y a la diffusion du téléfilm voilà, avec Stéphane Bern que vous avez tourné.
Je ne savais même pas qu'il allait passer bientôt.
Je ne sais pas.
On n'a pas la date. Dans les chaînes nordiques.
On n'a pas la date. Effectivement, je crois qu'il est passé peut-être en Belgique, quelque chose comme ça.
Oui, mais France, assez souvent. RTL, oui. TVA. C'est-à-dire que.
C'est un bon marché thèse d'ailleurs pour le marché français.
Souvent, il passe avant. Exactement. La production, il passe avant.
Donc, ça s'appelle Pour l'honneur d'un fils.
Oui, alors c'est très bien.
L'histoire d'un commandant, quand même.
Titre. Voilà. Et c'était merveilleux de travailler avec Stéphane. C'est un camarade extraordinaire. Il est
aussi bon comédien qu'il est animateur.
Il est brillant, il est gentil, c'est un vrai gentil. C'est un type que moi j'ai été extrêmement surpris de sa disponibilité tout azimut. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de lutte de classe, lui. Non, c'est un vrai bonhomme. Et en plus, à ma grande surprise... Parce que franchement, c'est un animateur magistral, ouais. On le connaît. Mais moi, je suis un acteur, c'est mon métier. Voilà, j'ai fait 25 ans de théâtre. Donc je me dis, ah bon, comment ça va être avec Stéphane ? Et en fait, j'ai été bluffé. Il a parce que c'est un vrai bonhomme, authentique, qui s'interroge vraiment. Il avait envie, d'ailleurs, je crois que c'était un rêve d'enfant de faire l'acteur. Et donc, il l'a fait très sérieusement. Et il est extrêmement sincère, extrêmement attachant. Et donc, du coup, il fait extrêmement bien ce personnage. Moi, j'ai été bluffé, le film est super. En plus, il est réalisé par un réalisateur que j'adore, qui est Olivier Guignard, qui est un très, très grand réalisateur, avec qui j'avais fait, moi, il y a longtemps, Le Repenti. Et puis, on a fait une collection aussi qui s'appelait 1788 et demi. Bref. Et Stéphane incarne, c'est un très joli personnage, parce qu'il incarne, donc vous connaissez Stéphane Bern, et il incarne un commandant de l'armée française. Ouais. Et qui va, qui d'ailleurs c'est une histoire familiale, c'est-à-dire que, enfin, l'origine de son personnage, il a un jeune fils et sa femme et lui auraient voulu qu'il ne fasse pas militaire, mais évidemment le fils fait militaire comme papa. Et il est tué au Mali. Il est tué au Mali, au milieu en Afrique, donc dans un petit nid d'extrémistes avec du trafic d'or. Et du trafic de... Et voilà, il est assassiné en opération. Et le personnage, le commandant Stéphane Bern, n'accepte pas, il ne comprend pas. Il a une intuition et donc il va faire une enquête
Et donc pour ça, c'est, voilà, pour pouvoir réussir à faire son enquête, il va devoir lui aussi se désolidariser de la défense, du ministère de la défense, parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas ses secrets, ses machins. Et lui, évidemment, il veut comprendre pourquoi son fils a été tué. Et moi, je joue, je sortais de mes bois, parce que confinement. Donc j'avais une barbe comme ça et une gueule pas possible. Et enfin, j'ai pu jouer le méchant. Quand le réalisateur m'a vu comme ça lors d'un échange, il m'a dit oh, tu sais ce que tu pourrais faire ça. Et donc là, j'ai pu faire le méchant complètement avec une gueule pas possible. Donc je fais l'assassin sordide.
À découvrir donc prochainement sur nos écrans. Je vous propose de boucler cette interview avec notre nouvelle rubrique qui s'appelle En toute franchise. Évidemment, il faut répondre avec la plus de sincérité, comme vous l'avez fait jusqu'ici, à notre question. Votre plus beau souvenir de carrière, d'abord.
Oh là là, franchement, là, j'en ai tellement.
Allez, s'il n'y en avait qu'un seul. Choisir, c'est renoncer.
Là, vous me piégez. Mon plus beau souvenir de carrière.
C'était au théâtre
Probablement. Allez, je vais faire une espèce de résumé, mais j'ai eu la chance de travailler avec Michel Bouquet. Et donc... Et en milieu de parcours. C'est-à-dire que donc, j'ai eu toute une aventure avec des grands maîtres. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très gâté. Mais quand tout d'un coup, il a fallu partager le plateau avec Michel Bouquet, ça a été une réinterrogation. C'est comme si tout recommençait à nouveau. En plus, on a joué l'avare pendant 2 ans dans toutes les villes de France. Donc, ça a été 2 ans de compagnonnage avec un des très grands derniers maîtres, au sens japonais, j'allais dire. De ce métier, et donc j'ai eu un échange privilégié avec lui, et ça doit être mon meilleur souvenir.
Votre pire souvenir, à l'inverse ? Oh, il y en a tellement. C'est ça que vous êtes en train de vous dire.
Non, il y en a très peu. Il y en a très peu, mais le pire souvenir... Est-ce que j'ai un pire souvenir ? Je ne crois pas. Non, le pire souvenir, c'est quand on te dit non.
Oui.
C'est quand tu as envie très fort de jouer quelque chose ou de faire partie d'une équipe et qu'on te dit...
C'est arrivé souvent ?
Pas cette fois. Ça arrive tout le temps. C'est une fois sur deux. Oui, ça fait partie.
Et c'est quoi le rôle que vous aviez particulièrement envie d'avoir que malheureusement, vous n'avez pas pu décrocher ?
Alors ça, pour être très franc, je ne vais pas rentrer dans les détails du truc, je vais faire une petite pirouette. Ouais. Non, c'est de vieillir. En vieillissant, je me rends compte qu'il y a des personnages majeurs classiques que j'ai pas pu.
Et c'est trop tard.
C'est trop tard. C'est-à-dire que ce serait pas honnête. Mmh. C'est compliqué aujourd'hui de jouer Hamlet. Mmh. Par contre, je vais pouvoir jouer le misanthrope ou Peer Gynt. Mais j'ai très envie de retourner au plateau. Et donc voilà, il y a quelques jeunes personnages. Hamlet, bon, Roméo, n'en parlons pas, mais il a 15 ans, donc on triche beaucoup. En vieillissant, il y a quelques figures comme ça de la jeunesse, de certains personnages qui posent des vraies questions, qui sont des héros de la littérature ou du théâtre, qui vont me manquer. Mais peut-être que je trouverai l'astuce, je mettrai en scène des acteurs que j'aime.
Ouais. Façon de répondre, effet aux attentes aussi. Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc avant d'entrer sur scène, au théâtre ou sur un plateau de tournage ?
Non.
Non ? Pas de gris-gris, pas de ritournelle, pas de...
Je suis un cérébral, plein de...
Vous mettez dans votre bulle ?
Une fois qu'on joue, je redeviens extrêmement brut, enfin instinctif. Donc je ne suis pas encombré de... Je ne crois pas.
Et si vous n'aviez pas été comédien, vous auriez exercé quel métier ?
Celui que je voulais faire et que je fais un peu en étant comédien. Mais moi, mes héros, c'était Gilles de Gennes, c'était Haroun Taziev, c'était Cousteau, c'était...
Il y a vraiment
l'aventure. Moi, j'ai une formation scientifique et de sport de haut niveau. Enfin, j'ai fait un sport études et je voulais parcourir le monde. Je voulais être un aventurier et rejoindre un équipage. Donc, je voulais avoir le maximum d'outils et de compétences physiques.
Vous pratiquez quel sport ?
J'en ai pratiqué beaucoup, mais celui que j'ai fait à haut niveau, c'était le triathlon.
Ah oui.
Et puis après le théâtre et la production m'ont orienté plutôt vers les arts martiaux, la danse, etc. Donc j'ai fait beaucoup plus de ces choses-là. Mais en fait, je suis comme dirait feu mon père, bon à rien, mauvais à tout. C'est-à-dire que je suis un spécialiste de rien et un curieux de tout. Donc je m'essaye à beaucoup de choses pour être le plus disponible possible.
Vous parliez de personnages célèbres, hein, Ountaziev ou le commandant Cousteau. Hein.
Donc j'ai eu la chance de faire le commentaire du très beau film de j'oublie son nom maintenant, c'est un scandale. Parce que je suis sûr.
Un documentaire ?
Oui, non, un film documentaire à Ountaziev, l'homme de feu.
On va rechercher. On recherchera. Je ne peux pas vous aider.
Non. C'est un scandale. Je n'aime que lui, c'est un vrai aventurier.
Bon, lui, on verra justement la vidéo
un
quand
vrai
on aura retrouvé
aventurier. Son. Exactement, là, c'est une honte.
Justement, si vous pouviez faire renaître une seule personne célèbre, hein, j'entends.
Évidemment. Éric Bauducel.
C'est dit.
Éric Bauducel, oui, très très grand documentariste. Ouais. Un vrai aventurier, lui. Pardon.
Si vous deviez faire renaître une seule personne célèbre, ce serait qui ?
Ah, c'est une super question, ça. Si je devais faire... Un personne célèbre.
Ouais. Personne célèbre.
Ah, ben Rouhabi, qui vient de nous quitter, là, il y a deux jours.
Vous le connaissiez bien, c'est ça ?
Comme tout le monde, c'est-à-dire, je connais sa bouille, ouais. Son débat. Ouais. Non, mais ça fait partie des gens qui nous ont accompagnés ces 20-30 dernières années avec des vraies questions.
Oui.
Donc, voilà.
Une autre question, qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique ?
Ce qui me déplaît le plus dans mon caractère, mon apparence physique.
On vous prend au piège.
C'est pas un piège d'ailleurs.
Non.
J'en sais rien. Ça fait
vous
pas partie
jamais posé
de mes
la
préoccupations.
Question, c'est vrai.
Non. Ça fait pas partie de mes préoccupations. En fait, j'ai plutôt une vision. Je m'applique à me regarder à l'intérieur. Ça paraît un peu présomptueux et un peu pompeux, mais c'est vrai.
Et quand vous regardez à l'intérieur, vous ne dites pas, tiens, je suis peut-être trop...
Non, quand j'étais gamin, en fait, je me trouvais trop grand.
Ah oui ?
Je ne suis pas si grand que ça, je fais 1m80, un peu plus.
Mais si vous faisiez 1m80 au collège, c'est sûr que...
Mais quand on est grand, on est tout fin, tout maigrelet, etc., j'avais toujours l'impression d'être frêle.
Ah oui.
Et j'ai toujours cette sensation intérieure, en fait, d'être frêle.
Ah. Ce qui n'est pas le cas.
Non. on reste fragile quand même.
Vous le savez, bientôt l'élection présidentielle. On voit qu'il y a un certain nombre de débats en ce moment sur les candidats. Soyons fous, faisons de la fiction. Vous êtes élu chef de l'État demain. Votre première décision, ce serait laquelle ?
J'adore que vous me posiez cette question.
Parce que vous y avez réfléchi, c'est ça ?
Non, parce que j'ai un rêve récurrent ces derniers temps. Attention, hein, c'est pas politiquement correct. Rêve en permanence. Vous vous souvenez de ce film Swimming with Sharks ? Je rêve de kidnapper Macron.
Vous voulez kidnapper Macron ?
Oui, c'est-à-dire que...
On rappelle,
c'est
un rêve.
Non, mais c'est un rêve, c'est-à-dire que c'est un rêve récurrent. Je me dis, mais comment... C'est quoi cette histoire ? On a un type qui est le plus jeune président. C'est notre Kennedy à nous. Tout d'un coup, il arrive, il fout le bordel dans tous les principes, dans tous les partis, dans tous les... Voilà, il réinvente le... Ce type pourrait être dans le Larousse, d'ailleurs, il rentre, je dis ce type, pardon, je lui manque de respect, monsieur le président Macron, jeune, beau, fringant, brillant, une espèce de figure incarnée, en plus, hein, il rentre par la grande porte, il nous a fait une investiture quand même assez solide.
Alors pourquoi le kidnapper ?
Historique, pourquoi ne souhaite-t-il pas être en rouge dans tous les Larousse de demain ? Comment se fait-il qu'un type comme ça, qui avait les clés, qui a les clés, qui est jeune, ne fait pas vraiment la révolution dans nos principes, ne tout d'un coup n'a pas une comment dirais-je, ne porte pas une véritable utopie, change la donne de beaucoup de choses, et que finalement, voilà, au bout de 3-4 ans, parce qu'il est à la même enseigne que tous les autres. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille, donc on a des événements et voilà, il faut embrasser le truc. Il s'est pas trop mal démerdé, mais quand même, au bout de 4 ans, on se dit mais alors quoi, un de plus, il y a pas de réinvention alors qu'il a tout, il avait tout.
Et pourquoi vous voulez le kidnapper pour lui dire votre
réalité ? Et donc c'est ça, non, c'est les rêves, mais c'est sérieux, c'est-à-dire mon rêve récurrent, c'est ça, c'est que je me rêve l'attraper parce que je suis plein de cette question, je me rêve l'attraper et l'obliger à me dire. C'est quoi le problème ? Est-ce qu'il y a un programme?
C'est une explication en tête à tête.
Une explication en tête à tête. C'est quoi? Est-ce que vous êtes coincé par une intelligentsia mondiale qui vous... Voilà, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret de vraiment de la lutte sur les étoiles. Il y a peut-être un autre territoire qui se fait. Je ne suis pas là-dedans. Mais vas-y, dis-moi. Voilà, pourquoi? Je le tutoie d'un coup. Je dis, vas-y, maintenant, tu vas me dire pourquoi toi, qui as toutes les clés,
pourquoi
toute
le monde n'est pas meilleur,
pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose de véritablement nouveau, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Voilà, c'est quand même l'homme fort de notre nation. Donc voilà, c'est un rêve récurrent, là. Moi, j'ai besoin d'explications.
Non, c'est intéressant. Une dernière question.
Une dernière question que je voulais vous poser.
Évidemment, le kidnapping, c'est pas très politiquement correct.
Oui,
mais
c'est une utopie.
C'est une utopie.
Il n'y avait pas d'agression.
Pourquoi il recevrait un acteur et pourquoi il répondrait vraiment à mes questions?
Ah, mais c'est un rêve.
S'il est menacé.
Allez, une dernière question. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez?
Pas forcément le plus cher, évidemment.
Mais il est là, dans votre régie.
C'est votre fils.
Aujourd'hui, je pense à lui, forcément, parce qu'il est là. Ouais. Aujourd'hui, il y a la grève, il y a les Covid, il y a les machins, donc mon fils m'accompagne.
Vous êtes heureux de l'accompagner.
Du coup, je suis super content qu'il soit avec moi aujourd'hui.
Et lui, je pense qu'il est aussi heureux de sécher l'école.
J'espère. Non, il adore l'école. En fait, il n'arrête pas de me dire, mais je vais rater ce qu'on apprend aujourd'hui.
Voilà. Il est parfait, cet enfant.
Ils sont sérieux, les enfants, aujourd'hui.
Son prénom, pour conclure le plateau.
Nino, mon petit Nino, qui est dans la régie.
Voilà, merci Bruno Debré. On va bientôt retrouver son fils dans quelques instants. Je vous rappelle donc ce soir, n'oubliez pas, sur France 3, Le Voyageur, en prime time. Et nous, demain, nous recevrons un nouvel invité.
Oui, nous recevrons deux personnalités. Il s'agit d'un l'ancien présentateur du 13h de TF1, ainsi que son épouse Nathalie Marquet. Les deux viendront nous parler de la façon dont Jean-Pierre Pernaut, puisqu'il s'agit de lui, affronte actuellement son cancer des poumons. Et puis, il nous parlera également de son actualité sur LCI, ainsi que du livre de Nathalie Marquet qu'elle a sorti récemment. Voilà.
Merci Bruno Debré encore et très bonne journée.
Merci beaucoup à vous.
Merci.